Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de lire le texte de la prédication dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, des versets 25 à 34. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, des versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croisent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain, sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
L'inquiétude peut totalement remplir nos pensées et utiliser nos capacités de réflexion ce matin. Et sans un déchargement, un nettoyage, pourrait-on dire, que seul l'Esprit de Dieu peut opérer, eh bien, nous n'aurons pas la place ni la capacité de saisir ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin. Nous comptons donc sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies.
Je vais le redire. Pardon, je vous réveille. L'inquiétude peut complètement remplir nos pensées et utiliser nos capacités de réflexion. Et sans un déchargement, un nettoyage du Saint-Esprit, eh bien ce matin, nos pensées peuvent complètement nous remplir nos têtes et passer à côté de ce que Dieu veut nous enseigner de sa parole. Nous comptons donc sur l'Esprit de Dieu pour être quelque part libre de recevoir et de comprendre ce que Dieu veut dans sa parole ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous laisser conduire en fait par un texte biblique sans être dans une série de prédications. Nous allons bientôt changer de thème dans les versets bibliques. Nous sommes actuellement dans les uns les autres, avec Romains 12, 9 à 21, que nous cherchons à apprendre par cœur. Et en fait, après cela, eh bien, nous aurons un autre thème, qui sera justement les 7 promesses de grâce pour vaincre l'anxiété. Et donc, c'est les versets qu'on apprend par cœur, en dehors des versets qu'on apprend pendant qu'il y a l'école du dimanche. Et je me rends compte que, pour ma part, j'ai souvent besoin de tourner mes regards vers Jésus-Christ afin de ne pas être plombé, happé, perturbé, tenté ou dérangé par des inquiétudes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Alors, c'est vrai que Dieu m'a fait la grâce d'une personnalité plutôt positive, particulièrement quand je ne suis pas trop fatigué. Et malgré cela, j'ai besoin très régulièrement de me rappeler ces 7 promesses. Et mon observation me permet de dire que je ne pense pas être le seul à avoir besoin de ce rappel de ce que Jésus nous donne dans cette parole dans Matthieu 6. Nous allons donc ce matin prendre quelques instants pour réfléchir à ce que sont les inquiétudes qui tournent d'ailleurs très vite à l'anxiété. Nous verrons le contexte de la réponse de Jésus dans Matthieu de 6 à 7, qui nous montreront déjà plusieurs pistes intéressantes. Et nous arriverons ensuite aux 7 promesses que Jésus nous donne lorsqu'il nous dit « ne vous inquiétez pas ». Donc premier point, des inquiétudes à l'anxiété. Le texte de Matthieu 6, 25 à 34, que vous avez sous les yeux, utilise 6 fois un terme qui veut dire « inquiet », être troublé par des soucis, être anxieux. Si vous regardez dans vos Bibles, il est au verset 25, 27, 28, 31 et deux fois dans le verset 34. Le terme « inquiétude » veut dire, alors si on prend en français, selon le dictionnaire Robert, « état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude où on est ». Et l'anxiété, selon le dictionnaire, est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger, ou une grande inquiétude, en fait. Alors, j'ai un petit peu cherché qu'est-ce que les gens disent autour de nous, ou même qu'est-ce que des professionnels de la santé mentale disent de cela. Donc, j'ai trouvé quelques sources dans la psychologie qui disent ceci, que l'angoisse, c'est des sentiments de peur, de crainte ou encore d'inquiétude. L'anxiété est une réponse à une situation stressante. Et si celle-ci devient excessive, elle est appelée trouble de l'anxiété. L'anxiété peut se manifester sous forme d'attaques, de crises de panique, phobie ou encore des troubles anxieux généralisés. Ou encore, l'anxiété peut avoir un impact énorme sur notre santé et notre bien-être. De nombreux états anxieux, tels que le trouble anxieux généralisé ou l'anxiété sociale, peuvent finir par causer de graves problèmes physiques et mentaux s'ils ne sont pas traités correctement. Encore, l'anxiété est difficile à vivre au quotidien et prend différentes formes, car elle est comme un monstre rampant qui nous dit sans arrêt que nous n'avons pas de valeur, que nous pourrions faire mieux et que nous aurions de faire ça au lieu de ça. Alors, les anxiolytiques, anxiolytique, ça veut juste dire médecine qui combat l'anxiété. Voilà, anxiolytique. Utilisés pour calmer et tranquilliser sont nombreux. Il y en a des naturels comme le magnésium, la vitamine D, la valériane ou la camomille, et j'en passe. Ou encore des traitements naturels contre l'anxiété comme la méditation, l'écriture d'un journal, sortir dans la nature, faire des exercices, rire, Toutes ces choses sont utiles. Mais généralement, soignent les effets et non la cause. Il existe d'ailleurs encore plusieurs autres thérapies sur la gestion du stress, par exemple. Et je n'ai pas parlé des anxiolytiques chimiques, ces médicaments qui modifient l'humeur. Voici une dernière citation. « Nous sommes dans un monde où l'on vend des millions de livres sur les meilleures manières d'être heureux. Nous aimons mettre des filtres sur nos photos pour offrir aux autres une image de perfection absolue, de sourire parfait, de bonheur idéal, car être heureux fait vendre. C'est ce à quoi nous aspirons tous et pourtant, en nous et dans la pénombre de notre maison, les démons et les peurs nous rongent et l'ombre de ces anxiétés nous rattrape. » Un psychologue dit ceci, ou un psychiatre plutôt, « Nous traitons le deuil et la peur avec des médicaments comme si c'était des maladies, mais ce n'en sont pas. » Je m'arrête ici sur un peu l'état des lieux, vous pouvez continuer à y réfléchir si vous le voulez. Mais Jésus, lui, n'a donné ni médicaments, ni prescriptions de traitement. En fait, il nous replace dans l'histoire de l'humanité créée par un Créateur qui est le Père Céleste, aimant de celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus n'a donné ni médicaments, ni prescriptions de traitement. Il nous replace dans l'histoire de l'humanité créée par un Créateur qui est le Père Céleste aimant de celui qui croit en Jésus-Christ. Alors j'aimerais que vous ne me compreniez pas mal ce matin. Je ne dis pas que tous ceux qui passent par une dépression ou une anxiété profonde n'ont qu'à croire. Mais la guérison de toute personne avec une petite inquiétude ou une crise d'angoisse
passe par la foi, selon Jésus. C'est un ingrédient essentiel qui devrait soutenir tous les autres moyens utilisés et mis en place. Et c'est Matthieu 6,30 qui me fait dire cela, car Jésus souligne ici l'importance du peu de foi dans cette problématique. La première chose donc que nous pouvons apprendre dans ce premier point, qui était plutôt une introduction au sujet, qu'est l'anxiété, que c'est quelque chose qui est reconnu et existant. Et que l'homme cherche des moyens pour soigner cette grande inquiétude. Et que Jésus nous indique qu'un fondement solide pour sortir de l'anxiété, c'est la foi. Regardons maintenant un petit peu au contexte du discours de Jésus avant et après qu'il parle plus précisément des inquiétudes. Donc c'est le texte de Matthieu 6. Vous pouvez faire l'exercice depuis le Matthieu 5. Vous pouvez faire tout chapitre 5 aussi, le même exercice que nous allons faire maintenant. Mais je pars du chapitre 6. Et on voit plusieurs enseignements importants. Donc reprenez vos Bibles, regardez ce qui est un peu écrit. Et plusieurs enseignements importants ont aussi un lien avec les questions d'inquiétude, déjà depuis là. Jésus nous apprend, au début du chapitre 6, notre relation avec Dieu par la prière, qu'elle est importante. Jésus a même enseigné ses disciples comment prier. Alors ne négligeons pas cet enseignement en pensant que nous sommes assez malins et que Jésus n'a pas besoin de nous enseigner comment prier. La prière, en fait, est le moyen pour parler de nos inquiétudes à Dieu, pour les déposer devant lui. La prière est le moyen pour parler de nos inquiétudes à Dieu et pour les déposer devant lui. Deuxièmement, Jésus parle aussi du pardon. Si on continue un peu dans le texte, il parle du pardon qui est très important. Et d'ailleurs, le non-pardon a automatiquement pour récolte l'inquiétude et l'anxiété. Le non-pardon a automatiquement pour récolte l'inquiétude et l'anxiété. La démarche de pardon est donc importante. Et nous savons que le pardon n'est pas en nous. Il faut le chercher en dehors de nous. Et non seulement pour être pardonné, mais aussi pour l'accorder. Seul Jésus-Christ peut nous accorder cette grâce que nous pouvons ensuite donner aux autres. Troisièmement, si nous continuons le texte, Jésus nous apprend que notre attachement aux biens terrestres devrait être limité et bien inférieur à l'attachement aux biens célestes. D'ailleurs, Jésus nous montre qu'il n'est pas possible d'être attaché et soumis à Dieu en étant attaché et soumis à l'amour de l'argent. C'est Dieu ou Mammon. Et d'ailleurs, c'est le verset juste avant le verset 25. Et il est dit d'ailleurs dans 1 Timothée 6,10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être abandonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Rechercher les choses d'en haut, les biens célestes, ne procure pas l'inquiétude, alors que rechercher les biens terrestres et être au service de Mammon amène des tourments. Si on continue après le passage de Matthieu 6, 25 à 34, que nous arriverons dans quelques instants, il poursuit en soulignant que la repentance, retirer sa poutre, est bien plus important que reprendre l'autre pour son erreur, sa paille. La faute dont lui seul peut se repentir. En fait, rechercher la faute des autres amène beaucoup plus d'inquiétude que se repentir de ses péchés. Rechercher les fautes des autres amène beaucoup plus d'inquiétude que se repentir de ses péchés. Cinquièmement, Jésus veut aussi faire comprendre que notre Père dans les cieux se soucie de nous bien mieux que le meilleur parent sur terre. Il est parlé, si un enfant demande de la nourriture, est-ce qu'on lui donnera un serpent, enfin, etc. Non, Dieu est encore meilleur que le meilleur des parents, et il en prendra soin, et c'est en lien avec ce que nous verrons dans les sept promesses. Et sixièmement, pour la fin de son discours, Jésus indique que faire du bien aux autres, c'est notre joie. Faire du bien aux autres, ce n'est pas source d'inquiétude, en fait. Jésus encourage en disant qu'un bon arbre porte automatiquement des bons fruits. Pas d'inquiétude à avoir. Un bon arbre porte des bons fruits. Et il termine par souligner la nécessité vitale de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie entière. C'est le fondement de la vie et de la solidité de notre maison qui traversera bien des tempêtes dans la vie. Mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie entière, c'est le fondement de la vie et la solidité de notre maison qui doit traverser les tempêtes de la vie. Vous connaissez la fin du texte qui parle des deux maisons, sur le sable et sur le roc. Or, tout le contexte, en fait, du sermon sur la montagne a quelque chose à nous apprendre concernant la manière de vivre solidement ancrée dans la vision du monde de Jésus-Christ pour faire face aux inquiétudes. Tournons-nous maintenant vers le texte du jour. Et ces sept promesses, quelles sont-elles ? Eh bien, Jésus commence de manière assez abrupte au verset 25. Il nous dit simplement « Ne vous inquiétez pas ». Et il termine au verset 34 « Ne vous inquiétez donc pas ». Le faire, c'est donc péché. Désolé, c'est un peu rude là, hein, mais c'est une bonne nouvelle que c'est un péché. Jésus est mort pour les péchés et il nous en délivre. Et entre ces deux versets, il nous donne plusieurs éléments que nous allons chercher à comprendre ensemble. Donc la première promesse, relisons le verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Eh bien la promesse numéro une, ici la première, c'est que Dieu nous a donné la vie et le corps. Dieu nous a donné la vie et le corps, donc il veillera à le faire vivre dignement pour le temps qu'il a prévu. Dieu a créé le corps et la vie. Qu'avez-vous fait pour avoir la vie et votre corps ? Rien. Vous n'avez rien fait. La vie vous a été donnée, le corps vous a été donné. La vie et le corps que Dieu a donné sont importants pour lui. C'est d'ailleurs lui qui maintient et permet au corps de fonctionner. Nous pourrions même dire que chaque battement de nos cœurs est une action de Dieu. De plus, Dieu donne la vie éternelle et va ressusciter le corps. La vie et le corps sont les éléments les plus importants. Sans la vie et le corps, nous n'existons pas. Et si nous existons, Dieu pourvoit à nos besoins selon sa manière de voir. Nos besoins selon sa manière de voir. D'ailleurs, quelqu'un ici pourrait dire que Dieu n'a pas pourvu jusqu'aujourd'hui à ses besoins. Eh bien, si quelqu'un ose dire que Dieu n'a pas pourvu, sa simple présence parmi nous nous démontrerait qu'il a tort. Tant que nous avons la vie et un corps, Dieu veillera. C'est la première promesse. Dieu nous a donné la vie et le corps, donc il veillera à le faire vivre dignement le temps qu'il a prévu. Passons au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? La deuxième promesse est celle-ci. Dieu nourrit ses créatures de moindre valeur, donc il nourrira aussi ses créatures, auxquelles il donne une grande valeur. Dieu nourrit ses créatures de moindre valeur, donc il nourrira aussi ses créatures auxquelles il donne une grande valeur. Dieu aime toute la création, c'est clair, il aime toute la création et il en prend soin. Mais dans sa création, il n'a pas la même valeur. Un brin d'herbe, un moineau et l'homme n'ont pas la même valeur. Or, dans un monde qui veut tout lisser, en généralement vers le bas, ce discours ne passe pas très bien. Mais réfléchissez avec moi. Les oiseaux du ciel ont-ils été créés à l'image de Dieu ? Ben non. Seul l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Les oiseaux du ciel ont-ils reçu le mandat de dominer ? Alors comprenons juste ce mot dominer, hein, comme être un roi qui protège, qui prend soin et qui en est le maître. Voilà, comme ça on comprend ce terme. Donc, est-ce que les oiseaux du ciel ont reçu le mandat de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre? Mais non. Seul l'être humain a reçu ce mandat. Encore un peu plus loin. Dieu s'est-il incarné en un oiseau du ciel pour venir vivre une vie parfaite d'oiseau et payer la rançon pour le rachat des oiseaux du ciel? Non. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ qui est venu racheter et sauver les hommes du péché. La valeur d'un homme et d'une femme est bien plus grande que celle d'un oiseau. D'ailleurs, Luc, dans le chapitre 12, nous dit que 5 moineaux sont vendus pour 2 sous, ce qui n'est rien. Attention, hein, ça ne signifie pas qu'on méprise les moineaux. Je ne suis pas en train de dire ça. Les moineaux sont des créatures merveilleuses de Dieu, dont il prend soin, justement. Simplement, cela nous aide à valoriser la vie de l'être humain qui est infiniment plus au point que Dieu est venu donner sa vie pour eux. Si donc Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendra-t-il soin des créatures auxquelles il donne une si grande valeur, au point de donner son Fils unique pour les sauver? Donc lorsque vous verrez un moineau, il n'a pas mal ici quand même, hein, lorsque vous verrez un moineau, rappelez-vous que si Dieu les nourrit, il nous nourrira aussi. Et en passant, hein, ça ne signifie pas que nous ne travaillerons pas. Est-ce que vous avez déjà observé les oiseaux? Évidemment, ils sont tous dans un hamac, la bouche ouverte en train d'attendre Dieu qui, avec sa petite cuillère, emmène quelques petites vitamines dans la bouche. Mais non! Les oiseaux, en fait, ils bossent toute la journée pour la nourriture, hein. Ils cherchent, ils se nourrissent, ils en amènent pour leur... C'est incessant. Ils ne sont pas paresseux, attendant que Dieu leur donne quelque chose, non. Mais ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils mangent aujourd'hui ce qu'ils trouvent aujourd'hui. Et demain, ils mangeront demain ce qu'ils trouveront demain. Et ainsi de suite. OK ? L'homme va semer, il va récolter. Il va mettre dans un grenier pour l'hiver afin d'arriver à la prochaine saison des semailles et de la récolte. Et Jésus veut qu'il n'y ait pas d'inquiétude. C'est ça ici. Donc faisons ce que nous pouvons avec les forces que nous avons et il prendra soin de nous. La Bible est claire, hein. D'ailleurs c'est assez cash. Hein. L'apôtre Paul il dit dans Thessaloniciens, car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ou les proverbes, vous pouvez trouver plusieurs proverbes, hein, où il est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas, et la moisson, il cherche et il n'y a rien. Donc Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et il nous montre les oiseaux du ciel pour nous le rappeler. Donc quand vous verrez les oiseaux, vous verrez deux choses maintenant. Dieu prend soin d'eux, et puis ils cherchent leur nourriture. Et cela encore vient de Dieu. Dans la vision du monde de Jésus, il n'y a pas de paresse, ni d'injustice, mais un travail diligent, intelligent, réfléchi, cherchant le bien commun, respectueux de sa création, dans laquelle l'homme agit en jardinier éleveur confiant. Tout ça. C'est ça, la vision du monde de Jésus-Christ. Donc, cette deuxième promesse, qui vient du verset 25, « Dieu nourrit ses créatures de moindre valeur, donc il nourrira aussi ses créatures auxquelles il donne une grande valeur. » C'était le verset 26. Passons au verset 27, relisons-le. Le début. « Qui de vous... par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. » Bon, il n'y a personne qui lève la main, ça me rassure. Donc la promesse ici, c'est « Dieu a fixé la longueur de notre vie. » Dieu a fixé la longueur de notre vie. Aucune inquiétude ne peut ajouter un seul instant à notre vie. Dieu a fixé la longueur de notre vie et aucune inquiétude ne peut ajouter un seul instant à ma vie. On pourrait dire ici que Dieu promet que l'inquiétude ne prolonge pas la vie. C'est une promesse. Je te promets que l'inquiétude ne prolonge pas la vie. Bon, alors pourquoi avoir de l'inquiétude ? S'il nous promet que ça ne rallonge pas la vie. L'inquiétude ou l'anxiété va plutôt avoir des impacts négatifs sur notre vie. J'ai un peu lu et réfléchi sur ce sujet. Voici quelques conséquences de l'anxiété. Attention, ça peut aussi être provoqué par d'autres causes, que vous compreniez bien. Mais l'anxiété est un facteur important qui provoque ce genre de conséquences. Première chose, c'est le blocage dans sa vie qui tue toute initiative parce qu'on est inquiet ou angoissé. L'augmentation de l'agressivité, de l'irritabilité, ou encore l'occultation des qualités telles que la générosité, la patience, la douceur, la tendresse, ou encore des troubles de sommeil, des troubles digestifs. Non, vraiment, l'inquiétude ne peut ajouter un peu de longueur à notre vie. C'est plutôt en fait des fardeaux, des freins, des blocages qui sont là dans nos vies avec les inquiétudes et l'anxiété. Dieu d'ailleurs a prévu la longueur de notre vie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est psaume 139, le verset 16, qui le dit très clairement. Par exemple, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc il va permettre que nous ayons la nourriture et le vêtement jusqu'à l'échéance. J'aime dire des fois, je suis immortel tant que Dieu veut que je sois en vie. Donc la promesse numéro 3 avec ce verset 27, Dieu a fixé la longueur de notre vie, aucune inquiétude ne peut ajouter un seul instant à ma vie. Lisons maintenant les versets 28 à 30 pour la quatrième promesse. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? La quatrième promesse ici est que si Dieu prend la peine d'habiller avec minutie des plantes qui passent très vite, donc il donnera la dignité à ces créatures dont l'âme est éternelle. Dieu prend la peine d'habiller avec minutie des plantes qui passent très vite, donc il donnera la dignité à ces créatures dont l'âme est éternelle. Alors en préparant cette prédication, j'étais stupéfait de voir qu'il y a plus de 12 000 espèces de graminées céréales, donc d'herbes différentes si vous voulez, avec des habits différents. C'est impressionnant. Et il parle des lys en plus ici encore. Je suis allé voir les lys, qu'est-ce que c'est ? Et puis j'ai lu que le genre Lilium, ça c'est le nom latin, compte plus de 100 espèces avec 2000 variétés, avec considérablement beaucoup, énormément d'hybrides encore en plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler du lys martagon, ou bien du lys tigré, ou du lys de la Madone, le lys blanc, ou le lys orange, enfin, etc. Il y en a 100, je ne vais pas tout faire la liste, et plus les 200 variétés. Sans parler de toutes les autres plantes, toutes les autres fleurs, qui se comptent par millions, et pour chacune des espèces, Dieu a conçu un habit différent, avec des détails extraordinaires. Alors, est-ce que vous êtes déjà amusé à regarder une plante ou une fleur un peu plus près ? Pas juste observer le pistil, l'étamine et les pétales, c'est déjà bien, mais disons, aller un peu plus loin, voir comment c'est formé, de voir chacune des parties, comment elles sont composées, superposées, avec délicatesse, avec art, avec goût. Prenez le temps parfois, même un brin d'herbe d'ailleurs. Si Dieu prend la peine de rendre chaque brin d'herbe digne, il va aussi nous permettre de vivre dans la dignité. Ici, nous pourrions parler de l'habillement. Qu'est-ce que c'est ? Dont le but n'est pas premièrement de mettre en valeur le corps. Ça, c'est le monde qui le dit. Non, l'habillement sert à cacher la nudité car le péché est entré dans le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu a inventé les vêtements pour l'homme et la femme. Point. Alors, mettre de beaux habits selon les critères de Dieu qui habille toute plante de manière extraordinaire, et qui encourage la pureté d'ailleurs de bonnes pensées, mais c'est très bien. Mais nous voyons nulle part dans la parole que les habits doivent mettre en valeur le corps. Ça, je ferme la parenthèse, on pourrait faire toute une prédication sur l'habillement, évidemment. Le vêtement, d'ailleurs, est aussi symbolique. Et symboliquement, il est aussi le don de la justice ou de la pureté. Le vêtement blanc d'Apocalypse ou du salut dans Ésaïe 71:10. Alors, rappelons-nous, en regardant les lys, l'herbe des champs, que Dieu les revêt avec soin. Pourtant, c'est éphémère. Il passe. Donc, il prendra d'autant plus soin de nous qui existons éternellement. Donc, la promesse numéro 4, Dieu prend la peine d'habiller avec minutie des plantes qui passent très vite. Donc, il donnera la dignité à ces créatures dont l'âme est éternelle. Continuons versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est la cinquième promesse. Dieu est notre Père céleste et il sait de quoi nous avons besoin. Dieu est notre Père céleste et il sait de quoi nous avons besoin. Or, il existe des parents qui prennent soin de leurs enfants. Très bien. D'autres qui sont un peu plus négligents, ou d'autres encore qui abandonnent carrément leurs enfants. Mais ce n'est pas en regardant nos pères que nous pourrons comprendre comment est Dieu. Or, si certains pères terrestres reflètent plus que d'autres des caractéristiques de Dieu, aucun n'est parfait comme le Père céleste qui est bon, juste, aimant, attentionné, protecteur, ouvert, patient, enfin, etc. Et tout ce que le Père parfait donne comme référence aux pères terrestres qui sont appelés à chercher à lui ressembler. Dieu ne ressemble pas aux pères terrestres. C'est les pères terrestres qui sont appelés à ressembler à Dieu. Il ne faut pas inverser la chose. Sinon, si vous avez une mauvaise image d'un père, vous aurez parfois une mauvaise image de Dieu parce que vous faites ce cheminement-là. Non, c'est l'inverse. C'est important. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, qui adorent l'argent, le wokisme ou tout autre courant de pensée ou religieux en dehors de Jésus-Christ, vont faire de leur survie leur sujet principal de leur quête. Même l'appel à leur Dieu est en lien avec leur survie. Et ils n'ont pas de Père céleste qui prend soin d'eux. Tout en reconnaissant, et là je le reconnais, l'immensité de la grâce générale du Créateur. Qui prend soin même des méchants de manière qui nous dépasse complètement, c'est vrai. Mais ils n'ont pas un Père céleste qui prend soin d'eux. Celui qui croit en Jésus-Christ a Dieu pour Père céleste. Il est dans la sécurité. Et quand on est dans la sécurité, et ça c'est un des éléments qui est très souligné même dans le monde par rapport à tout ce qui est anxiété et inquiétude, quand on est dans une situation de sécurité, on est calme. On est serein, on n'est pas inquiet. Donc, ayant Dieu pour Père, ceux qui l'adorent peuvent être en sécurité. En plus, il nous engage à vivre certaines choses. Par exemple, il nous demande d'être compatissants envers les autres. C'est intéressant parce que même les psychologues reconnaissent qu'être compatissant vis-à-vis des autres renforce notre résilience et évite la rumination. Mais tout ce que notre Père Céleste nous demande est bon même pour ou contre les inquiétudes, justement. Je ne donne qu'un exemple, on pourrait parler de beaucoup d'autres éléments et je vous encourage à réfléchir à ce Père Céleste, ce qu'il est pour nous, ce qu'il nous demande, qui sera toujours bon et souvent même qui va à l'encontre ou qui permet d'éviter l'inquiétude et l'anxiété. Mais ce Père Céleste ne nous a pas seulement, on pourrait dire, engendrés comme un père qui donne sa semence pour voir venir sa progéniture. Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Il connaît tout de nous. Il connaît toutes nos connexions neuronales, les courants électriques qui circulent dans notre corps et même les pensées immatérielles que nous avons. Cette promesse numéro 5 est précieuse. Dieu est notre Père céleste et il sait de quoi nous avons besoin. Continuons verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Alors ce matin, lors de la réunion de prière, nous avons eu une introduction à ce sujet en lien avec la justice. Magnifique. Donc si vous voulez savoir de quoi il a été question, ben, posez des questions à ceux qui étaient présents ce matin. Mais j'aimerais venir à la promesse qui est ici, la promesse numéro 6. Dieu nous donnera toujours tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon son royaume et sa justice. En fait, Dieu nous donnera toujours tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon son royaume et sa justice. Dieu en premier, et nous recevrons ce que nous avons besoin. Il y a un exemple très marquant dans la Bible. Peut-être que vous vous souvenez de l'histoire d'Élie qui va vers une veuve à Sarepta. Et il lui dit d'aller chercher un morceau de pain. Et voici ce qu'il est écrit. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie dit, « Sois sans crainte. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que pour lui. » En fait, cette femme a dû avoir vraiment confiance dans la promesse d'Élie. Parce que les dernières choses qu'elle avait, en fait, ben, elle les donnait. On pourrait dire, elle a mis Dieu d'abord. Il me fait une promesse, ok, alors je lui donne. Et il a fait la promesse de prendre soin, hein, c'est sûr. Elle est pas, c'est pas une foi aveugle. Hein. Elle fait confiance dans la promesse. Elle lui donne. Et voilà qu'ensuite, elle est bénie. Et je pourrais vous raconter, mais beaucoup d'histoires personnelles ou d'autres personnes qui prouvent cela. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il s'occupe de permettre que nous ayons ce que nous avons besoin pour le servir et pour vivre. La promesse numéro 6, Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin pour vivre selon son royaume et sa justice. Passons au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La septième promesse est celle-ci. Dieu nous donne quotidiennement la charge que nous pouvons porter un jour. Dieu nous donne quotidiennement la charge que nous pouvons porter un jour et la force qui va avec. Dieu ne nous donne pas la force pour 2, 3 ou 100 jours. Un peu comme la manne dans le désert. Hein. Il nous donne ce qui est nécessaire pour ce jour. Et demain, il donnera ce qui est nécessaire pour demain. Et après-demain, il donnera ce qui est nécessaire pour après-demain. Et, enfin, on continue. Dans une semaine, pour ce qu'on aura besoin. Enfin, vous comprenez l'idée, hein? Et dans l'autre sens, il ne donne pas un fardeau plus grand que la force qu'il nous donne. Mais il n'en demande pas moins non plus. Nous sommes engagés, c'est clair. Et plusieurs textes soulignent cette notion. Par exemple, 1 Corinthiens 10, 13 est assez fort. Là, on parle de tentation, mais c'est la même notion. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Il donne les moyens pour supporter ce qu'il permet. Et un passage que beaucoup aiment, je suis sûr que vous l'aimez tous. Donc je vais le lire et vous verrez que vous l'aimez tous. C'est dans Lamentations 3:21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, jamais, hein, n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité, grande est ta fidélité. Elle se renouvelle chaque matin. La bienveillance et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Il a d'ailleurs dit qu'il sera avec nous tous les jours. C'est intéressant, il n'a pas juste dit toutes les années ou tous les siècles. Tous les jours, chaque jour. De la prière du Notre Père, il nous a appris à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Chaque jour suffit à sa peine. Pas besoin d'avoir de l'anxiété pour le lendemain. Facile à dire, me direz-vous. Eh bien, placez votre foi en Dieu, ce Père bienveillant, ce Fils compatissant, cet Esprit consolateur, et vous viendrez me donner des nouvelles. La septième promesse, Dieu nous donne quotidiennement la charge que nous pouvons porter un jour. C'est vrai que Jésus ne propose pas un anxiolytique comme le monde le fait, mais il nous invite à entrer dans une démarche de foi. C'est par la foi. Ce par la foi, on l'a déjà bien entendu, mais c'est la réalité. C'est par la foi. La foi n'est pas une pensée qui flotte dans l'air, insaisissable, indéfinissable. Non, la foi, c'est la confiance dans les promesses de Jésus-Christ. Et nous en avons vu 7 ce matin. Et j'espère maintenant que lorsque vous apprendrez par cœur ces passages dans les prochains mois, vous vous souviendrez de ces 7 promesses. La première, Dieu nous a donné la vie à un corps, donc il veillera à le faire vivre dignement le temps qu'il a prévu, verset 25. Deuxièmement, Dieu nourrit ses créatures de moindre valeur, donc il nourrira aussi ses créatures auxquelles il donne une grande valeur, verset 26. Troisièmement, Dieu a fixé la longueur de notre vie. Aucune inquiétude ne peut ajouter un seul instant à notre vie, verset 27. Quatrième promesse, Dieu prend la peine d'habiller avec minutie des plantes qui passent très vite, donc il donnera la dignité à ses créatures dont l'âme est éternelle. Cinquième promesse, Dieu est notre Père céleste et il sait de quoi nous avons besoin. Verset 31-32. Sixième promesse, Dieu nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon son royaume et sa justice. Verset 33. Et septième promesse, Dieu nous donne quotidiennement la charge que nous pouvons porter en un jour. Et en fait, ce texte n'est pas le seul. Donc n'hésitez pas cet après-midi à lire le texte parallèle dans Luc. Vous avez ça dans votre petite feuille qui indiquait les passages à lire, dans Luc 12. Il y a 2 autres textes qui sont très très forts, que plusieurs connaissent par cœur ici. C'est Philippiens 4, 6 et 7. Méditez-les, ces versets. Ou encore 1 Pierre 5, 7. Ça vous dit, déchargez-vous, ça vous dit quelque chose, hein? Et puis j'en donne un troisième qui est peut-être un peu moins connu. C'est 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Prenez le temps cet après-midi de relire ces textes, de les méditer et que le Seigneur nous donne cette grâce de déposer nos inquiétudes et de ne pas les reprendre. Prions. Éternel notre Dieu, nous vivons dans un monde qui souvent est anxiogène. Et tu nous dis dans ta parole, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce possible? Eh bien Seigneur, c'est possible par la foi, c'est toi qui nous le dis. Et pas une foi qui est vide, mais une foi pleine de ces promesses extraordinaires que tu nous donnes et que tu tiens. Oui, nous vivons des épreuves. Oui, nous vivons des difficultés. Oui, nous vivons des choses qui sont parfois longues, pénibles. Mais Seigneur, jamais tu ne nous abandonnes. Jamais tu ne nous délaisses. Jamais tu ne permettras que nous n'avons pas les capacités de vivre pour ton royaume et dans ta justice. Et en nous donnant cela, Seigneur, nous pouvons vivre même toute notre vie. Quelle grâce! J'aimerais te prier de nous aider à saisir encore plus ce que signifie vivre dans ton royaume, vivre pour toi, vivre d'une manière qui te glorifie, qui t'honore, et de nous en réjouir. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été inquiet, où je me suis demandé comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, de manière à avoir des soucis, à en avoir parfois même un peu peur. Je te demande pardon pour ce manque de confiance, parce que, Seigneur, tu tiens tout dans ta main. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à utiliser les dons, les capacités que tu nous donnes, sachant que toi, tu prends soin. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.